Bonjour Pascal.
Salut Stan.
Alors dans ce huitième module de ce cours d'introduction à Azure Active Directory Premium, on va parler un petit peu de rapports, et plus particulièrement des rapports de sécurité.
Et oui Stanislas, c'est un point assez important hein, dans tout ce qui est surveillance et monitoring de notre système de sécurité. C'est de mettre en place des rapports un petit peu exhaustifs, intéressants sur certains comportements qu'on va pouvoir analyser dans notre Azure Active Directory. Donc c'est une fonctionnalité qui existe dans la version premium pour la partie avancée de Azure Active Directory. Par contre, pour les fonctions de base, elle existe dans les trois éditions de Azure Active Directory, avec donc l'aspect avancé uniquement pour la premium. Mais on a déjà des trois rapports de base qui sont déjà pas mal pour les versions gratuite et basique de AAD.
A noter que sur ce qu'on appelle rapport de sécurité avancée, ça va faire appel à plus de rapports de sécurité, plus d'ailleurs une certaine intelligence basée sur du machine learning.
Tu veux dire une intelligence ambiante ?
Une intelligence ambiante, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est l'idée un petit peu derrière.
Exactement. Donc l'idée, hein, c'est de surveiller, protéger les accès aux applications de l'organisation. C'est une fonctionnalité qui est disponible en standard pour partie.
Pour les rapports de base.
Et puis, donc, il y a des rapports qui permettent de repérer, par exemple, des accès bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accès bizarre dans ce contexte-là ? C'est par exemple, si on regarde cette slide-là, on a un petit point rouge qui s'est allumé en bas à gauche. Là, quelqu'un qui est en Amérique du Sud s'est authentifié sur Active Directory, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir des authentifications depuis ce pays-là.
Donc, qui s'est authentifié sur Azure Active Directory.
Azure Active Directory. Voilà. Donc ça peut être une anomalie. Parce que dans nos journaux, on voit que c'est quelque chose qui est assez rare.
Plutôt. On va voir la localisation, effectivement, basée sur plein d'informations, des remontées, par exemple, sur les adresses IP, donc géolocalisé par adresse IP, le timing également. C'est irrégulier si, par exemple, l'utilisateur se connecte à 2h du matin, heure française, alors qu'on n'a que des utilisateurs qui travaillent en France. Ça peut être un peu bizarre,
ça peut être
par
bizarre,
exemple.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Des choses comme ça.
Des insomniaques.
Donc bizarre. L'idée, vraiment, c'est de ces rapports, hein, c'est repérer ce qui est tentative d'authentification ou authentification qui a réussi, mais dans des choses qui sont hors de la normale. Du coup, potentiellement, lever une alerte.
Exactement. Autre type d'alerte qu'on peut lever, par exemple, c'est la même personne, le même compte qui s'authentifie en même temps à deux endroits différents de la planète.
Ouais.
Ça peut être un petit peu louche d'être à la fois en Amérique du Sud et en Europe centrale.
À part dans la série Star Trek où la téléportation existe, normalement le don d'ubiquité n'est pas possible. Et du coup, effectivement, si on a deux demandes d'authentification qui ont lieu en même temps ou dans des espaces-temps relativement proches, et impossible à faire dans la réalité. Ça peut être bizarre que l'utilisateur, mon directeur, se connecte effectivement d'un côté en Uruguay, de l'autre côté quelque part au Kazakhstan.
Donc on peut dire qu'il y en a au moins un des deux qui est
bizarre,
bon.
Voilà.
Qui est fake.
On peut comprendre qu'une personne peut être en vacances à l'autre bout du monde, mais que dans la minute qui suit, elle soit dans un autre pays à l'autre bout de la planète. Normalement, c'est pas normal.
Ça sent le vol de credentials, le vol d'identité.
Exactement.
Donc, si ça se produit, ben, on peut, par exemple, suite à des alertes remontées par ces rapports, mettre en place une mesure de correction qui serait, par exemple, de mettre en place du MFA, de l'authentification multifacteur.
Exactement. Et MFA, en fait, c'est une des options d'Azure Active Directory Premium. Donc, on peut affecter une authentification forte à chacun de ses utilisateurs qui ont une licence Azure Active Directory Premium. Mmh. Et donc, l'authentification MFA qui sera utilisée derrière se base sur la possession d'un téléphone avec un numéro associé. Et donc, l'utilisateur peut recevoir un code de SMS complémentaire pour authentification, ou utiliser une application mobile, ou se faire appeler directement par la plateforme MFA. Donc là, on est certain que le scénario où on a deux demandes en simultané depuis deux endroits du monde, potentiellement, il y en a un qui peut être légitime, mais le légitime, ce sera celui qui possède le téléphone.
Exactement.
Alors, les rapports de sécurité, tu l'as dit, on en a certains qui sont basés sur des règles. Donc, c'est les rapports gratuits qui sont disponibles, quelles que soient les éditions d'Azure Active Directory. Donc, ça peut être des connexions depuis des sources inconnues. Donc là encore, effectivement, j'ai une boîte franco-française et j'ai régulièrement des connexions depuis la Chine alors que j'ai personne, pas d'activité en Chine. On peut se poser des questions. Donc ça, typiquement, c'est une source inconnue. Une connexion après de multiples échecs, c'est-à-dire qu'il y a eu 50 tentatives de login mot de passe qui ont échoué, et la 51e, bah, ça passe. Ça ressemble quand même un petit peu à l'attaque type robot ou voilà, par tentative. Les connexions depuis plusieurs lieux géographiques en simultané, hein, là encore, on vient d'en parler. Donc ça, c'est des trucs de base qu'on estime fournir dans quelles que soient les éditions d'Azure Active. Ensuite, on a tout ce qui est information spécialisée, c'est-à-dire qu'on va un peu plus dans la granularité, dans la remontée d'informations et la génération de rapports associés. Donc dire par exemple, les tentatives de connexion, d'authentification à Azure AD depuis un équipement, donc tablette, PC, qui serait potentiellement infecté. Donc potentiellement infecté, ça veut dire derrière, on a des remontées d'informations, de flux un peu bizarres, et derrière, parce que nos plateformes anti-spam, etc., ont de la télémétrie sur ce genre de choses, peuvent dire, corrélé avec d'autres informations qu'on a sur d'autres services de cloud, quelque part, ce poste, on pense qu'il est peut-être infecté, parce qu'il correspond à un certain pattern en fait, qui est connu. Mmh. Autre chose, connexion depuis des adresses IP suspicieuses. Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP suspicieuse ?
Je pose la question.
Tu poses la question. Bien là encore, par des systèmes de télémétrie, en fait, chez Microsoft, donc télémétrie fait par nos plateformes Hotmail, par nos plateformes de cloud au sens large, on va dire grand public ou pro, plus les remontées liées en fait à tout ce qui est attaque sur nos propres data centers et donc nos sondes IDS, etc., plus la télémétrie remontée par tous les postes Windows qui sont infectés et dont qui sont nettoyés par notre anti-malware. Mmh. Tous ces éléments en fait corrélés, additionnés ensemble et moulinés de manière intelligente permettent de dire cette adresse IP-là, elle est suspicieuse parce qu'elle est réputée pour véhiculer des codes malveillants, elle a fait du bombing au niveau de nos passerelles SMTP, elle a fait des attaques des DOS, etc., etc. Donc toute cette intelligence, cette télémétrie globalement, ça nous permet, on peut la corréler avec les logs d'Azure et dire, bah tiens, telle adresse IP, lui, il est connu pour envoyer du spam ou connu pour envoyer ça, etc. C'est une adresse suspicieuse.
Donc elle est plutôt suspecte que...
Ok. Suspicieuse, le terme n'est pas bon, c'est ça ?
Ben... On est suspicieux quand on suspecte quelqu'un. Donc là, elle est plutôt suspecte. En fait.
Donc, connexion depuis des adresses IP suspectes. L'auditeur aura corrigé de lui-même.
Mais oui, bien sûr.
Et puis, on a également du machine learning derrière qui tourne. Alors, machine learning, on va dire que c'est des sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que je suis bien dans le bon terme ?
C'est de la grosse donnée.
C'est de la grosse donnée, mais moulinée de manière intelligente. Ce qui permet de dire, par exemple, de détecter des connexions irrégulières. Exemple, on a l'utilisateur Toto qui se connecte tous les jours de 9h à 17h. Merci de ne pas rigoler, Pascal. De 9h à 17h dans une situation géographique française. Et tout d'un coup, en fait, il se met à se connecter à 3h du matin depuis la Chine. Bah, ça, c'est pas normal. On est d'accord là-dessus.
Oui, parce que la machine peut apprendre que
son comportement régulier, etc.
Voilà.
Et donc là, effectivement, tout ça. Donc, en combinant certaines choses, effectivement, on peut voir les utilisateurs qui ont une activité anormale, de connexion anormale. Alors, activité de connexion égale authentification qui ne va pas marcher en gros sur Azure Active Directory. Pareil, on est capable dans les rapports de sécurité de remonter certaines actions de type réinitialiser son mot de passe. C'est pas un utilisateur qui va aller 50 fois tenter de faire la réinitialisation de mot de passe. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. Donc dans les actions qu'on peut faire suite effectivement à une activité anormale, on va déclencher de forcer l'utilisateur à faire d'avoir un mot de passe.
On peut réinitialiser des mots de passe.
On va mettre en place l'authentification multifacteur avec MFA. Je vous rappelle, MFA est fourni dans le package Azure AD Premium. On peut également comme action dire je vais ignorer l'événement parce que peut-être que finalement la connexion depuis la Chine c'était parce qu'en fait le directeur était en déplacement en Chine.
Eh oui.
Voilà. Tout à fait. Et puis ces rapports on peut les télécharger, les remouliner derrière après pour en faire des beaux dashboards qu'on peut donner aux instances dirigeantes de la structure gérant le service du système d'information. Donc les rapports sur les opérations, donc on a effectivement tout ce qui est audit qui est gratuit. Après on a des rapports sur par exemple l'activité, sur la réinitialisation des mots de passe, je le disais. 50 tentatives de réinitialisation, c'est pas normal. D'accord ? Ou alors c'est l'utilisateur qu'il faut peut-être changer. Mais c'est pas normal dans tous les cas. Pareil, on a une activité sur les enregistrements des utilisateurs qui sont enregistrés pour pouvoir passer en mode libre service. Mm-hmm. Donc, par exemple, vous activez la fonctionnalité, vous communiquez auprès de l'entreprise et vous voulez voir un petit peu combien d'utilisateurs ont activé réellement pour eux cette fonctionnalité-là. Ce rapport est typiquement fait pour ça. La gestion des applications, c'est un petit peu leur usage. On a vu qu'on a un portail qui s'appelle MyApps qui permet d'exposer des applications cloud aux utilisateurs avec du single sign-on. L'idée également, c'est de savoir est-ce qu'au final, réellement, les utilisateurs utilisent ce portail et quelles applications ils utilisent régulièrement? Et bien ça, on peut avoir un rapport là-dessus. On peut avoir une activité sur le provisioning de comptes, donc le rajout de comptes, soit de manière manuelle, automatisée, ou via des accords avec d'autres plateformes de cloud et d'interconnexion, par exemple avec d'autres systèmes d'identité. Et puis également, du coup, on peut avoir les erreurs sur la partie provisioning. Peut-être qu'on a mal configuré une API ou une clé d'enregistrement et que du coup, on a des erreurs et que les comptes ne se provisionnent pas. Donc, les rapports disponibles sont relativement nombreux. Donc, on voit ici, connexion depuis des sources inconnues, plusieurs échecs de connexion, connexion depuis des endroits géographiques très dispersés, connexion depuis des adresses IP...
Suspecte,
non pas suspicieuse, merci. Connexion depuis des PC, on va dire, potentiellement affectés. Des signes, on va dire, des irrégularités dans l'activité par rapport tous les jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Audit, reset, ça je l'ai dit. L'activité des groupes également. C'est-à-dire qui a fait quoi sur quel groupe. Quand on a des utilisateurs qui peuvent créer des groupes et gérer l'appartenance ou pas des groupes, là encore on peut le gérer. Et sur les applications intégrées, on voit qu'effectivement, on a tout ce qui est usage de l'application et, toute l'activité sur le provisioning et les erreurs associées derrière. Donc voilà, donc tout à l'heure, je te parlais un petit peu de données qui proviennent d'autres éléments pour la partie, entre guillemets, adresse IP, adresse IP, suspect, etc. Donc on a une grosse source d'information qui est en gros les différents services de Microsoft, donc toute la télémétrie au sens large. On a également les emplacements géographiques renvoyés par les périphériques. Donc là, on est basiquement sur de la géolocalisation sur base d'IP ou sur base de réseau 3G quand l'équipement est connecté à un réseau GSM, cellulaire. Ouais. On a également des remontées d'informations depuis les différentes applications SaaS. Donc si on a par exemple interconnecté le portail MyApps avec, je sais pas, un Dropbox ou autre, si effectivement il y a des erreurs de provisioning faites côté Dropbox, ça sera remonté par cette application. Et puis on a toute la partie effectivement Digital Crime Unit, qui est notre cellule en charge de lutter contre les réseaux de botnet, la cybercriminalité au sens large. Et eux aussi ont des bases d'informations qui disent effectivement...
Ils ont des bases effectivement d'adresses IP.
Bases d'adresses IP de botnet,
de machines.
Bases d'adresses IP de malware particulier, etc.
Ouais,
etc.
Ouais.
Dernière chose effectivement qui alimente tout ça, c'est l'activité des utilisateurs des équipements. C'est-à-dire je me log avec tel user depuis tel équipement, je fais telle opération depuis tel équipement. Voilà. Tout ça remonté ensemble, c'est collecté dans beaucoup de données et après c'est analysé, transformé par des reporting services. Et donc on va pouvoir avoir le retour sous la forme de l'interface utilisateur, sous la forme de notifications, des alertes, ou via des API, on peut consommer avec d'autres applications pour aller chercher les données. Basiquement c'est ça. Donc exemple ici, tu vois un portail tout simple, c'est l'activité de reset de mot de passe. On voit qui a fait et on a toujours le résultat. Par exemple, ici, j'ai abandonné, j'ai fait une tentative de reset et puis je l'ai abandonné. Les enregistrements en mode libre-service, l'utilisation des applications. Voici qu'est-ce que j'ai utilisé dans les 30 derniers jours. Et on voit combien d'utilisateurs uniques ont utilisé l'application et combien de fois il s'est signé sur l'application. Je pense qu'un des gros reproches qu'on a pu souvent faire, qu'on a souvent sur nos applications internes, telles que Active Directory sur Windows Server, c'est très, très difficile de savoir qui fait quoi. On aimerait bien avoir ce genre de rapport depuis des années en fait. Alors on peut le faire effectivement en moulinant des logs et en utilisant différents produits ou Operation Manager et puis en faisant des rapports un peu personnalisés. Là en fait on a vraiment les gros besoins qui sont déjà faits pour nous en termes de rapports. C'est à mon avis le gros bénéfice de tout cela. Juste pour vous montrer très très rapidement en démonstration. Donc on vient ici sur l'Active Directory. Donc je te propose d'aller plutôt sur mon Active Directory qui a déjà été un peu plus alimenté que celui qu'on vient de créer pour cette série de démos.
Un petit peu, oui.
Donc on va ici sur la partie rapport. Donc on a la fameuse liste dont je t'ai parlé, qu'on a vu précédemment. Tu vois, hop, activité anormale, connexion depuis des sources inconnues, etc. etc.
Donc tu as la liste complète parce que tu as une licence premium.
Exactement. Donc là, des choses un peu suspectes, honnêtement, j'en ai pas, donc je ne vais pas aller voir ces choses-là, parce que je sais que j'en ai pas par rapport aux usages que j'ai fait pour l'instant. D'accord ? Par contre, si je regarde mon rapport d'audit, là, j'ai des choses à l'intérieur qui sont plus intéressantes. Donc je vois tous les événements, par exemple, du 25-11 au 2 décembre, et je vois donc, par exemple, ici, que j'ai l'utilisateur qui a supprimé une application. Là, que j'ai mis à jour un utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est principe. Là, j'ai fait ici une mise à jour d'utilisateur. J'ai fait un reset d'un mot de passe ici. Et chaque fois, en fait, on sait qui a fait quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, le compte Hotmail qui est un de mes administrateurs a mis à jour un utilisateur qui s'appelle Pascal S. Donc on a vraiment une traçabilité de tout ce qui est fait. Derrière, alors si on regarde du détail, on a des choses, effectivement, les UPN, qu'est-ce qui a été modifié, etc. Ouais. L'heure à laquelle ça a été fait. Et puis on peut télécharger ce rapport pour mouliner après de manière un peu plus graphique. Les activités de réinitialisation, par exemple, de mots de passe. Donc là, j'en ai quelques-unes, par exemple. Et quelle est la méthode qui a été utilisée? Donc là, par exemple, j'ai utilisé mon téléphone avec un SMS pour faire l'initiation. Là, ici, j'ai non applicable parce que ça a été fait, parce qu'en fait, il y a eu un échec, tout simplement.
Ouais, donc je pense que ça va faire plaisir à nos RSSI.
C'est vraiment, vraiment des rapports qui sont très pragmatiques et qui répondent à une donnée précise.
Et puis le rapport sur l'activité des applications, par exemple, va faire plaisir également aux acheteurs, enfin, à savoir ce qu'on a dépensé.
Exactement, je disais quelles applications
ont été utilisées.
Quelles applications ont été utilisées, par exemple. Et là, je vais avoir un graphe ici de mes connexions, etc. Donc tu vois, Stanislas, il s'est connecté 5 fois à la partie, à cette application, avec la dernière connexion, et Pascal, lui, s'est connecté 4 fois. Voilà. Donc, personnellement, je trouve vraiment que ces rapports sont vraiment super exploitables. C'est des choses qu'on n'avait pas depuis longtemps. Et puis, on a les activités de configuration au sens large des comptes, plus toutes les erreurs derrière. Donc, si on regarde l'activité des groupes, par exemple, ça permet de savoir, c'est le service, ce qui se passe sur les groupes. Tu vois, là, par exemple, ici, on voit quoi? Donc, c'est relativement simple. Stanislas 1
a créé
un groupe. Et on voit ici qu'également, j'ai approuvé une demande de jonction, donc une demande d'appartenance à un groupe. Mais Pascal, se termine cette petite démonstration sur les rapports d'activité.
Merci Stan.